Chapitre 5. Vacances en Norvège. Les grandes vacances, mots magiques. Il me suffisait de les entendre prononcer pour sentir des frissons de joie me parcourir la peau. Toutes mes vacances d'été, de 4 à 17 ans, de 1920 à 1932, furent totalement idylliques. Elles le furent, j'en suis certain, parce que nous nous rendions toujours dans le même endroit idyllique et que cet endroit était la Norvège. À l'exception de ma demi-sœur, si vieille, et de mon demi-frère, lui un peu moins vieux, nous étions tous de purs Norvégiens d'origine. Nous parlions tous norvégien et tous nos parents vivaient là-bas. Alors en un sens, nous rendre en Norvège chaque été, c'était un peu comme rentrer au pays. Le voyage même était un événement. N'oubliez pas qu'en ce temps-là, il n'existait pas d'avions commerciaux, et le voyage nous prenait donc 4 journées complètes à l'aller et autant au retour. Nous formions toujours une véritable troupe. Il y avait mes 3 sœurs et ma vieille demi-sœur, 4, mon demi-frère et moi, 6, ma mère, 7, Nounou, 8, et en plus il y avait toujours au moins 2 autres filles, sorte d'amies anonymes aussi vieilles que ma vieille demi-sœur, 10 en tout. Quand j'y repense maintenant, je ne sais vraiment pas comment ma mère arrivait à se débrouiller. Il lui fallait écrire à l'avance pour réserver des places dans les trains, sur les bateaux et à l'hôtel. Elle devait s'assurer que nous emportions suffisamment de culottes, de chemises, de pullovers, de sandales de gymnastique et de maillots de bain. On ne pouvait même pas acheter un lacet de chaussures sur l'île où nous allions. Et la préparation des bagages devait être un vrai cauchemar. Tout était soigneusement rangé dans 6 énormes malles, sans parler d'innombrables valises, et lorsque le grand jour du départ arrivait, notre groupe de 10, accompagné de notre montagne de bagages, se lançait dans la première et la plus facile étape du périple, le voyage en train jusqu'à Londres. Arrivés à Londres, nous nous empilions dans 3 taxis qui nous emmenaient en cahotant à travers la grande ville jusqu'à King's Cross, où nous montions dans le train pour Newcastle, à 300 km au nord. Le voyage jusqu'à Newcastle durait environ 5 heures, et lorsque nous y arrivions, il nous fallait de nouveau 3 taxis pour nous emmener de la gare jusqu'au quai d'embarquement où nous attendait notre bateau. La prochaine étape serait ensuite Oslo, la capitale de la Norvège. Dans ma jeunesse, la capitale de la Norvège ne s'appelait pas Oslo. Elle s'appelait Christiania. Mais à un moment quelconque, les Norvégiens décidèrent de changer ce joli nom en celui d'Oslo. Enfin, nous avons toujours connu la capitale sous le nom de Christiania, mais si je l'appelle ainsi maintenant, cela ne peut que prêter à confusion, mieux vaut donc parler d'Oslo. La traversée de Newcastle à Oslo prenait 2 jours et 1 nuit, et si la mer était agitée, ce qui était souvent le cas, nous étions tous malades, sauf notre intrépide mère. Nous restions étendus sur les chaises longues du pont promenade, à portée immédiate du pastingage, le visage grisâtre, l'estomac révulsé, refusant le potage brûlant et les biscuits que le gentil steward ne cessait de nous proposer. Quant à la pauvre Nounou, elle commençait à avoir le mal de mer dès qu'elle mettait les pieds sur le pont. « Je déteste ces engins, » disait-elle. « Je suis sûr qu'on n'arrivera jamais là-bas. Sur quel canot de sauvetage doit-on monter quand on se mettra à couler ?» Elle se retirait jusqu'à ce que le navire soit fermement amarré au quai, dans le port d'Oslo, le lendemain. Nous passions toujours 1 nuit à Oslo pour avoir une grande réunion familiale et annuelle avec Best Mama et Best Papa, les parents de notre mère, et avec ses 2 sœurs célibataires, nos tantes, qui vivaient dans la même maison. Moins 1 heure après que nous avions débarqué, notre cortège de taxis norvégiens, après une halte au grand hôtel où nous allions passer 1 nuit pour y déposer nos bagages, nous conduisait à la maison de nos grands-parents où un accueil débordant d'affection nous attendait. Nous étions tous enlacés, embrassés maintes fois, les larmes coulaient sur les vieilles joues ridées, et soudain cette maison, sombre et silencieuse, résonnait de joyeuses voix d'enfants. Depuis la toute première fois où je l'avais vue, Best Mama m'avait paru terriblement âgée. C'était une vieille dame aux cheveux blancs, au visage ridé, toujours assise, me semblait-il, dans son rocking chair où elle se balançait doucement, souriant affectueusement à cette invasion de petits-enfants venus de si loin pour prendre possession de sa maison durant quelques heures chaque année. Best Papa était d'un naturel silencieux. C'était un savant de petite taille, plein de dignité, avec un bouc blanc au menton, et d'après ce que j'avais compris, il était astrologue, météorologue et parlait le grec ancien. Tout comme Best Mama, il était la plupart du temps tranquillement assis dans un fauteuil, parlait peu, totalement submergé, j'imagine, par la bruyante cohue qui abolissait le calme de son foyer ordonné et raffiné. Je me souviens surtout de deux détails au sujet de Best Papa. Il portait des bottines noires et fumait une pipe extraordinaire. Le fourneau était en écume de mer et le tuyau, flexible, mesurait environ 90 cm, si bien que le fourneau reposait sur ses genoux. Tous les adultes, y compris Nounou, et tous les enfants, même lorsque le plus jeune n'avait qu'un an, s'asseyaient autour de la grande table ovale de la salle à manger l'après-midi de notre arrivée pour la grande célébration annuelle avec les grands-parents, et le menu qui nous était offert ne variait jamais. Nous étions dans une maison norvégienne, et pour les Norvégiens, la meilleure nourriture du monde, c'est le poisson. Et quand ils disent poisson, ils ne parlent pas de ce que vous et moi pouvons trouver à la poissonnerie. Ils parlent de poisson frais, de poisson pêché depuis moins de 24 heures et qui n'a jamais été congelé ou gardé au frais sur des blocs de glace. Je trouve comme eux que la meilleure façon de préparer ce genre de poisson, c'est de le pocher. C'est ce qu'ils font avec les plus beaux spécimens. Les Norvégiens, à ce propos, mangent toujours la peau du poisson poché, la partie la plus savoureuse, disent-ils. Ce grand repas de fête commençait donc par du poisson. Un énorme poisson, un carrelet grand comme un plateau à thé et épais comme le bras, était apporté sur la table. La peau au-dessus était presque noire et piquetée de taches orange vif, et bien entendu, il avait été cuit au courbouillon à la perfection. De gros morceaux de la chair blanche du poisson étaient détachés de la masse et servis sur nos assiettes, nappés de sauce hollandaise et accompagnés de pommes de terre nouvelles à l'eau. Rien d'autre. Et bon sang, c'était délicieux. Dès que les reliefs du poisson avaient été débarrassés, on servait une gigantesque montagne de glace maison. Outre que c'était la glace la plus crémeuse du monde, elle avait une saveur inoubliable. Des milliers de petites paillettes de caramel doré y étaient incorporées. Du krokan, comme disent les Norvégiens. Et elle ne fondait donc pas dans la bouche comme une glace ordinaire. On pouvait la mâcher. Elle craquait sous la dent et ce goût était une chose dont on rêvait après pendant des journées entières. Ce grand repas de fête était interrompu par un petit discours de bienvenue que prononçait mon grand-père. Et les adultes levaient alors leur verre de vin à longs pieds et disait « Skål !» de nombreuses fois au cours du dîner. Les libations terminées, on servait à ceux que l'on considérait comme assez vieux des petits verres de liqueur de cassis faits à la maison. De nouveau, on levait son verre, et les « Skål !» semblaient se succéder indéfiniment. En Norvège, vous pouvez choisir n'importe quelle personne autour de la table et lui porter un toast pour l'honorer en particulier. Pour commencer, vous levez haut votre verre et vous prononcez le nom. « Best Mama », dites-vous. « Skål, Best Mama !» Elle prend alors son propre verre et le lève très haut. En même temps, vous la regardez droit dans les yeux et vous devez continuer à la fixer tout en buvant. Après avoir agi ainsi, tous les deux, vous levez de nouveau vos verres en une sorte de dernier salut silencieux et c'est seulement alors que chaque personne peut détourner son regard et reposer son verre. C'est une cérémonie grave et solennelle et, en règle générale, dans les grandes occasions, chacun porte un toast individuel à chaque autre convive autour de la table. S'il y a par exemple 10 personnes présentes et que vous êtes l'une d'entre elles, vous porterez un toast à chacun de vos 9 compagnons et chacun d'entre eux, à son tour, portera un toast en votre honneur, ce qui fera 18 en tout. Voilà comment l'on se comporte là-bas, chez les gens bien élevés, ou du moins c'est ainsi que l'on se comportait dans le temps et c'était toute une affaire. Dès l'âge de 7 ans, je fus autorisé à participer à ces cérémonies et je finissais toujours complètement pompette.